Le retour de Jésus est au cœur de l'espérance chrétienne. Jésus lui-même a dit à ses disciples qu'il reviendrait. Et depuis, de nombreuses générations de chrétiens se sont succédées dans cette attente qui dure maintenant depuis un peu plus de 2 millénaires, ou à peu près 2 millénaires. Une attente si longue qu'elle finit parfois par tomber aux oubliettes. Une attente si longue qu'elle suscite immanquablement toutes sortes de moqueries. Comment conserver la force de quelque chose qui dure depuis si longtemps? Comment comprendre que cette attente soit si longue? Comment vivre dans cette attente qui dure? Que dire aux moqueurs qui voient dans cette longue attente une preuve de l'absurdité de notre espérance? Je vous propose ce matin de réfléchir à ces questions et de le faire au travers d'un texte qui se trouve dans la deuxième épître de Pierre, un texte pour ceux qui fréquentent les rencontres de quartier, qui a servi de base cette année à un des canevas proposés dans les rencontres de quartier. Je vous invite à lire, notre passage se trouve dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3, et je vais lire les versets 1 à 15. Alors, le texte va s'afficher dans quelques instants. Voilà. De Pierre, chapitre 3, je lis les versets 1 à 15. Bien-aimés, c'est déjà la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, pour que vous vous souveniez des paroles dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement de vos apôtres, commandement de celui qui est Seigneur et Sauveur. Vous savez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de moqueries, qui iront au gré de leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères se sont endormis dans la mort, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui surgit de l'eau et se tint au milieu de l'eau par la parole de Dieu, et que par cela même le monde d'alors disparut, submergé par l'eau. Or, c'est par la même parole que les cieux et la terre de maintenant sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Il est cependant un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec ses œuvres sera mise à découvert. Puisque tout cela est appelé à se dissoudre ainsi, comment ne devriez-vous pas vivre ? C'est avec une conduite sainte et avec piété qu'il vous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Or, nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. Aussi bien-aimés dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. L'annonce du retour de Jésus est depuis toujours au cœur de la prédication chrétienne, au cœur de l'annonce de l'Évangile. Nous croyons en la résurrection corporelle de Jésus et nous croyons que selon sa promesse, ce même Jésus va revenir un jour pour chercher les siens et pour juger le monde. Si l'annonce du retour de Jésus est aussi vieille que le christianisme, les moqueries qui l'accompagnent aussi. Il y a toujours eu des moqueries pour accompagner l'annonce du retour de Jésus. Rien de nouveau à cela. L'apôtre Pierre y était déjà confronté et il en parle dans notre texte. Il en parle et il donne plusieurs arguments pour faire contrepoids à celui des moqueurs. Il faut rappeler ici que les premiers chrétiens s'attendaient à ce que Jésus revienne rapidement, qu'il revienne de leur vivant. Seulement les années ont passé et Jésus n'est pas revenu. Pourtant, c'est bien lui qui avait dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Comment comprendre cette affirmation de Jésus ? Ceux qui se tenaient là quand Jésus l'a dit sont tous morts. Ont-ils vu le Fils de l'homme venir dans son règne ? Ce n'est sans doute pas un hasard si ce verset est placé juste avant l'épisode de la transfiguration dans les évangiles. Un événement exceptionnel qui va révéler quelque chose de la gloire de Dieu, quelque chose de la gloire du Fils de Dieu, de la gloire du Fils de l'homme et de la venue de son règne. Alors oui, Jésus n'est pas venu dans toute sa gloire lors de sa première venue, mais quand il viendra dans la gloire qu'ils ont pu apercevoir sur le mont de la Transfiguration. Alors oui, tous ceux qui étaient là sont morts, mais certains d'entre eux ont eu ce privilège d'apercevoir, d'avoir un aperçu anticipé de la gloire du Fils de l'homme et du règne de Dieu sur la montagne de la Transfiguration. Et cette compréhension, c'est ce que Pierre semble confirmer dans la même lettre que celle qui nous intéresse ce matin, quand il dit au chapitre 1, versets 16 à 18, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement, » l'avènement c'est la parousie, c'est le retour de Jésus, « de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons été témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Quand la voix vint à lui de la gloire magnifique, « Mon Fils bien-aimé, c'est lui, c'est en lui que moi j'ai pris plaisir. Nous avons nous-mêmes entendu cette voix venue du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sacrée. » Oui, ils ont été les témoins oculaires, même auditifs, de sa grandeur. Lorsqu'ils étaient avec lui sur la montagne sacrée, c'est-à-dire sur le mont de la Transfiguration, quand il a reçu honneur et gloire de Dieu son Père. Ils ont vu alors quelque chose de sa gloire, de sa grandeur. Et cette transfiguration a préfiguré, annoncé sa parousie, son avènement, son retour, sa deuxième venue, sa venue en gloire à la fin des temps. Si les paroles ambiguës de Jésus que nous venons de considérer peuvent s'expliquer comme nous venons de le faire, la réalité d'un retour annoncé qui tarde n'en demeure pas moins réelle. Les années passent et rien ne se passe. Et il est facile de comprendre en face de cela les moqueries et le scepticisme grandissant de certains. Et c'est dans un tel contexte que l'apôtre Pierre écrit sa deuxième lettre, lettre dans laquelle il va entre autres répondre à ces moqueurs. Et il va le faire en donnant plusieurs arguments pour étayer l'assurance de l'espérance du retour de Jésus, malgré les apparences, malgré le temps qui passe. Des arguments qui peuvent nous être utiles dans notre propre dialogue avec des moqueurs, des sceptiques, et nous pouvons en croiser. Avant de voir les arguments de l'apôtre, considérons brièvement celui des moqueurs. Quel est-il ? Nous le trouvons au verset 4 de notre texte, et je relis le verset 3 et 4. Vous savez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de moqueries, qui iront au gré de leurs propres désirs et qui diront : où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères se sont endormis, dans la mort, tout demeure comme depuis le commencement de la création. L'argument des moqueurs est simple. Les années ont passé et rien ne s'est produit. Les pères sont morts et tout est comme avant. Les pères sont pour certains les patriarches et pour d'autres ce sont les chrétiens morts depuis que Jésus est retourné auprès de son père. En particulier ces chrétiens qui avaient prédit un retour imminent de Jésus. Ils auraient dû voir Jésus de leur vivant et il n'est toujours pas revenu. Où est la promesse de son avènement ? En réalité, disent-ils, rien n'a changé depuis le commencement de la création et rien ne changera jamais. L'annonce du retour de Jésus n'est qu'une fable à leurs yeux. Face à cet argument des moqueurs, Pierre a plusieurs arguments à faire valoir. À faire valoir pour affirmer la certitude du retour de Jésus. Les arguments que nous trouvons du verset 5 jusqu'au verset 10. Et le premier argument que l'apôtre avance est un argument qu'il tire de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de notre monde. Je relis à partir du verset 5. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui surgit de l'eau, pardon, et se tint au milieu de l'eau par la parole de Dieu, et que par cela même le monde d'alors disparut, submergé par l'eau. Or, c'est par la même parole que les cieux et la terre de maintenant sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. L'argument des moqueurs au verset 4 est en réalité un argument de mauvaise foi, dit l'apôtre Pierre. L'apôtre souligne que ces moqueurs oublient quelque chose volontairement, parce qu'ils ne veulent pas envisager l'idée d'un jugement à venir, ils choisissent intentionnellement de ne pas considérer le déluge comme annonçant le jugement à venir. Mais Pierre leur rappelle, il leur rappelle comment Dieu a déjà agi par le passé, par sa parole. Au verset 5, il rappelle la création par la parole. Et puis au verset 6, que par la même parole, il y a eu la destruction, le jugement du déluge. Et pour Pierre, l'argument des moqueurs tombe à l'eau, si on peut dire, car ils lisent l'histoire du monde sans y voir comment Dieu y est déjà intervenu, en accomplissant par sa parole, par la puissance de sa parole. Une parole de Dieu qui est certaine, des promesses de Dieu qui se réalisent toujours. Et c'est la raison pour laquelle, au verset 7, Pierre dit que c'est par cette même parole que les cieux et la terre de maintenant sont gardés en vue du jugement dernier. Ce premier argument de l'apôtre, c'est donc que tout comme le déluge est arrivé, ainsi en sera-t-il de la fin de notre monde et du retour de Jésus, car Dieu les a lui aussi annoncés. Le retour de Jésus est une certitude, même si le temps passe, parce que la parole de Dieu est certaine. L'histoire de notre monde le confirme, dit Pierre. La façon dont Pierre parle des moqueurs fait penser au signe avant-coureur du retour de Christ dont parlent d'autres textes de l'Écriture. Pierre dit que dans les derniers jours, c'est une expression qu'on retrouve fréquemment dans le Nouveau Testament et qui désigne l'ensemble de la période finale de l'histoire des hommes qui va de la première venue de Jésus jusqu'à son retour. Toute cette période, entre la venue de Jésus et son retour, est désignée par cette expression « les derniers jours ». Et Pierre dit donc que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs qui nieront et se moqueront de l'annonce du retour de Jésus. C'est pourquoi toutes les moqueries, toutes les railleries concernant le retour de Jésus devraient nous rappeler que nous sommes dans les derniers jours. Nous y sommes depuis 2000 ans, mais nous y sommes bel et bien. Et donc que le retour de Jésus approche. Il y a des signes qui ne trompent pas. Les amandiers qui fleurissent à la fin de l'hiver annoncent le printemps. Les colchiques qui sortent dans les prés à la fin de l'été annoncent la fin de l'été et le début de l'automne. Ainsi, les moqueries et les railleries au sujet de la seconde venue de Jésus annoncent son retour. Le retour de Jésus est une certitude parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. C'est une certitude que les moqueurs confirment malgré eux par leur moquerie. Voilà pour le premier argument de l'apôtre. Le deuxième argument de Pierre contre l'argument des moqueurs est un argument qu'il va tirer d'un verset des psaumes. Je relis le verset 8. « Il est cependant un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. » Pierre tire cette illustration du verset 4 du psaume 90. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. En d'autres mots, ce que l'apôtre dit ici, c'est que Dieu a une autre perspective que l'homme du temps qui passe. Dieu voit les choses autrement que nous. Notre notion du temps n'est pas celle de Dieu. Pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Et un jour, c'est comme 1000 ans. Pas pour nous, mais pour Dieu, oui. Cela nous rappelle combien notre vision des choses est différente de celle de Dieu, combien elle est limitée, combien Dieu et sa compréhension des choses finalement nous dépassent complètement. Alors nous avons tendance à toujours vouloir tout comprendre et tout comprendre de Dieu, mettre Dieu en boîte, tout cerner. C'est un peu parfois le travers des théologiens de vouloir tout expliquer, parfois aussi des pasteurs. Mais comment la créature pourrait-elle tout comprendre du Créateur ? Comment nous qui sommes des êtres finis, avec un début et une fin, avec des limites, pourrions-nous comprendre celui qui est infini, celui qui n'a aucune limite ? Si nous suivons la logique de cette pensée tirée des psaumes, alors ça ne fait que deux jours. Deux jours, aux yeux de Dieu, que Jésus est allé auprès de lui préparer une place pour les siens. Deux jours seulement que les chrétiens attendent son retour. Vu sous cet angle, la perspective de son retour est tout autre, n'est-ce pas ? Vu sous cet angle, ce qui paraît être un délai bien long, trop long, n'est en réalité que quelques heures à la pendule de Dieu. Et c'est précisément cela que Pierre veut faire comprendre à ses lecteurs ici. Dieu a une autre grille de lecture, une autre compréhension des choses. Et dans l'attente de son retour, nous sommes invités à voir les choses comme Dieu les voit. Voilà le second argument de l'apôtre Pierre. Notre notion du temps n'est pas celle de Dieu. Le retour de Jésus est une certitude, même si des années, même si des siècles, même si des millénaires se sont écoulés, parce que pour le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour. En s'appuyant sur ce deuxième argument, l'apôtre va en avancer un troisième. Un troisième qu'il va cette fois-ci tirer du caractère de Dieu. Je relis le verset 9. Le Seigneur, dit-il, ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical, à la repentance. Le verset 9 ajoute une dimension nouvelle à cette autre perspective de Dieu. Dieu n'est pas en retard, dit Pierre. Il est simplement patient. Pourquoi Dieu use-t-il de patience ? La réponse nous est donnée dans le texte. Dieu use de patience parce que Dieu désire que tous accèdent au salut. Parce que Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. La patience de Dieu, c'est la possibilité pour les hommes de se repentir. C'est la possibilité donnée à l'homme de se tourner vers Dieu. La patience de Dieu, c'est l'aspect de son amour en vertu duquel il supporte l'homme pécheur et le mal malgré la longue désobéissance de l'homme en vue du salut du plus grand nombre. Si Dieu est patient, c'est car il est amour. S'il est lent à la colère, c'est car il est amour. Et c'est ce que Pierre redit au verset 15 de notre passage. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. C'est bien de cela. C'est là l'enjeu de cette longue attente. La patience de Dieu est notre salut, pour notre salut. Si nous pouvons être sauvés, si nous avons été sauvés, c'est parce que Dieu était patient. Il a été envers nous comme il l'est encore avec tous les hommes, jusqu'à ce que Jésus revienne. Il est patient car il désire que tous les hommes soient sauvés. Il est patient, mais cette patience, un jour, prendra fin. Elle prendra fin lors du retour de Jésus. C'est la raison pour laquelle il nous faut œuvrer aujourd'hui pour le salut des autres, pour le salut de ceux qui nous entourent, parce que c'est aujourd'hui que Dieu est patient. C'est aujourd'hui qu'il est lent à la colère. C'est aujourd'hui le jour de grâce, pas demain. Le retour de Jésus est une certitude, quoi qu'en disent les moqueurs. Et dans ce troisième argument, l'apôtre Pierre va souligner leur erreur qui se situe sur deux plans. Premièrement, il se trompe sur la notion de retard. Dieu n'est pas en retard, dit Pierre. Il est simplement patient. Et puis deuxièmement, il se trompe sur le soi-disant motif de ce retard. Dieu ne tarde pas parce que Jésus ne va pas revenir, mais parce qu'il veut le salut de tous. Le quatrième et dernier argument de Pierre est un argument qu'il base sur une parole de Jésus. Je relis le verset 10. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec ses œuvres sera mise à découvert. Cette parole de Jésus, ou cette expression qui va nous intéresser maintenant, se trouve par exemple dans l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 24, versets 42 à 44. Veillez donc, dit Jésus, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne permettrait pas qu'on fracture sa maison. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Le jour du Seigneur viendra, c'est une certitude, dit Pierre, seulement il viendra comme un voleur dans la nuit. Il viendra sans que personne ne puisse dire quand. Il viendra à l'heure que vous ne pensez pas, dit Jésus. Dans ce quatrième argument, l'apôtre met le doigt sur le caractère tout à fait imprévisible du retour de Jésus. Tout comme la venue du voleur est imprévisible, ainsi en est-il de la venue du Seigneur. Une venue dont personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Ça, on n'a pas manqué d'explications, de spéculations depuis 2000 ans. Mais personne ne sait ni le jour ni l'heure. Et vous avez peut-être à l'esprit cette parole étonnante de Jésus qui dit que pas même le Fils ne sait le moment du retour, de son retour. Un texte qui souligne peut-être, sans doute, ce que le Fils, dans sa soumission au Père et dans son incarnation, a accepté de mettre de côté pour devenir semblable à nous. Mais le plus important n'est pas cette subtilité de l'incarnation de Jésus. Le plus important pour nous, dans cet aspect imprévisible du retour de Jésus, c'est que personne ne pourra se préparer au dernier moment. C'est ça qui est important. Dans une maison, je peux mettre une alarme pour me dire quand le voleur arrive. Pour ce qui est du retour de Jésus, il n'existe pas et il n'existera jamais aucune alarme, aussi sophistiquée soit-elle, qui pourra me dire que le moment arrive. C'est la raison pour laquelle être prêt pour le retour du Seigneur, c'est être prêt maintenant, c'est être prêt aujourd'hui, c'est être prêt sans plus tarder. C'est être prêt sans remettre au lendemain parce que personne ne sait de quoi le lendemain sera fait. Parce que le jour du Seigneur viendra comme un voleur et qu'à ce moment-là, il sera trop tard pour songer à se préparer. La fin du verset 10 décrit ce jour du Seigneur. Ce jour où Dieu interviendra pour mettre un terme à l'histoire de ce monde qui a été profondément abîmé par le péché. Ce jour où le Fils de l'homme viendra dans son règne et dans sa gloire. Et ce jour-là, dit Pierre, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec ses œuvres sera mise à découvert. Il y aurait beaucoup à dire ici, mais j'aimerais juste mentionner une ou deux choses. Faut-il comprendre le feu littéralement, le feu dont il est question, ces éléments embrasés, ou alors de façon symbolique? Le texte permet les deux compréhensions. Soit il s'agit du feu du jugement divin qui dit symboliquement la purification, l'action purificatrice de Dieu qui vient purger notre monde de son péché et de toutes ses conséquences. Soit il s'agit du feu, instrument de destruction comme l'eau lors du déluge. Les deux compréhensions sont possibles. Mais que les cieux et la terre soient détruits par le feu ou pas, que notre texte soit à comprendre symboliquement ou pas, une chose est sûre, ce jour de jugement sera aussi jour de création. C'est ce que l'apôtre dit au verset 13. Or, nous attendons selon sa promesse des cieux nouveaux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est fini le péché. Où la justice habitera. La seule caractéristique de cette nouvelle création que l'auteur juge important de relever ici, c'est que cet endroit, ce monde nouveau, sera un endroit où la volonté de Dieu sera faite. Sera un endroit où la justice habitera. Parce que celui qui est juste, il demeurera pour l'éternité. Mes amis, quelle espérance glorieuse que la nôtre. Une espérance qui, par la foi, devient assurance. Vous connaissez ce texte de l'Épître aux Hébreux qui dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aimerais terminer ce message en relevant ce que l'apôtre souligne pour dire la manière dont nous devons nous comporter dans cette attente qui est la nôtre, dans l'attente du retour de Jésus. Comment vivre dans l'attente du retour de Jésus? Après avoir affirmé et argumenté la certitude du retour de Jésus malgré le temps qui passe, malgré les moqueries de certains, Pierre va terminer ici en exhortant ses lecteurs à vivre d'une certaine manière en attendant ce retour. Et en face de la certitude du retour de Jésus, il les appelle premièrement à mener une vie sainte et avec piété. Nous trouvons ça au verset 11 et au début du verset 12. Puisque tout cela est appelé à se dissoudre ainsi, comment ne devriez-vous pas vivre? C'est avec une conduite sainte et avec piété qu'il vous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu. Après avoir affirmé et argumenté le retour de Jésus, l'apôtre les exhorte à mener une vie sainte, une vie pieuse. En d'autres mots, une vie séparée du péché. Comme il va d'ailleurs le souligner quelques versets plus loin, au verset 14. Aussi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés, efforcez-vous, Dieu n'attend pas de nous l'impossible, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut, dans la paix. Tout cela dans la paix, dit Pierre. Dans la paix parce que je sais que toutes choses sont dans la main de Dieu. Dans la paix parce que j'ai mis ma confiance en celui dont la parole s'accomplit toujours. Et c'est en agissant ainsi, en menant une vie sainte et avec piété, que nous n'aurons pas honte à son avènement. C'est en demeurant en lui, va dire Jean dans sa première épître, que nous n'aurons pas honte à son avènement. 1 Jean 2, verset 28, « Et maintenant, mes enfants, demeurez en lui, menez une vie sainte, sans tache et sans défaut. » Ce « demeurez en lui », on peut le remplacer par tout ce que nous venons de dire. « Demeurez en lui pour que, quel que soit le moment de sa manifestation, » il ne sait pas, lui non plus, « nous ayons de l'assurance et qu'aucune honte ne nous fasse nous éloigner de lui à son avènement. » Souvenons-nous, face à ces exhortations, à mener une vie sainte et pieuse, face à cette barre qui semble quand même très haute, comme le dit Pierre au début de cette même épître, que sa divine puissance nous a donné tout, va-t-il dire au chapitre 1, verset 3, 2 Pierre 1, verset 3, sa divine puissance nous a donné tout, ce qui contribue à la piété, à la vie et à la piété. Dieu nous donne. Il donne ce qu'il ordonne. Souvenons-nous aussi, face à ces exhortations à mener une vie sainte et pieuse, séparée du péché, que quand nous chutons, puisque nous devons nous efforcer de paraître sans tache et sans défaut, il y a des moments où nous n'y arrivons pas. Et quand nous chutons, souvenons-nous que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais la vie sainte n'est pas la seule exhortation de l'apôtre à ses lecteurs. Face à la certitude du retour de Jésus, il les appelle aussi à une attente active. Nous lisons au verset 12 de notre texte, « C'est avec une conduite sainte et avec piété qu'il vous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu. » Notre attente du retour de Jésus ne doit pas être une attente oisive, une attente passive, mais au contraire active, entreprenante pour le royaume de Dieu. Nous devons attendre et hâter le retour de Jésus. Mais comment hâter ? Cet avènement, ce serait un message en soi que de répondre à cette question, mais je donne vraiment très brièvement quelques éléments. Comment hâter l'avènement du jour de Dieu que nous attendons ? En annonçant la bonne nouvelle de l'Évangile. En annonçant la bonne nouvelle de l'Évangile, nous lisons dans l'Évangile de Marc qu'avant que le Fils de l'homme ne revienne, il faut tout d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Comment attendre et hâter ? En annonçant l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et les extrémités de la terre, ils sont venus chez nous. Maintenant, tout est mélangé. On a des gens de toutes nations qui habitent dans tous les pays. Une attente active, c'est attendre en témoignant. Comment hâter l'avènement du jour de Dieu que nous attendons ? En priant. En priant pour que son règne vienne. C'est le Seigneur qui nous l'a appris, n'est-ce pas ? Dans le Notre Père. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Une attente active, c'est une attente où nous prions pour l'avènement du jour de Dieu. Pour que son règne vienne. Pour que ce monde d'injustice soit remplacé par un monde où règne la justice. Et où nous prions bien évidemment pour le salut d'un plus grand nombre. Et puis enfin, comment hâter l'avènement du jour de Dieu que nous attendons ? En menant une vie sainte et une vie de piété comme nous venons de le considérer. Une attente active. C'est attendre en veillant sur nous-mêmes. Chers amis, la venue du Seigneur est certaine. Par la foi, nous pouvons l'affirmer. Elle est certaine, quoi qu'en disent les moqueurs, parce que la parole du Seigneur s'accomplit toujours. Elle est certaine malgré les siècles qui passent. La perspective du temps qui passe n'est pas celle de Dieu, enfin la nôtre n'est pas celle de Dieu. Elle est certaine même si Dieu semble avoir oublié. Il est patient. Il désire qu'un plus grand nombre soit sauvé. Elle est certaine et il nous faut être prêts maintenant par le salut, car elle viendra comme un voleur dans la nuit. Elle est certaine et il nous faut attendre activement ce jour glorieux en annonçant la bonne nouvelle de l'Évangile, en priant pour que son règne vienne et en menant une vie sainte. Que le Seigneur nous y aide chacun, pour sa gloire et jusqu'à son retour. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.